Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Crédit Advisor, premier courtier en prêt immobilier 3.0 et Agence Réunie, le réseau d'indépendants au service de ses adhérents.
Il est 8h03 et notre invité est sur le plateau. Bonjour Clément Alteresco.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Bah ça va très bien, écoute. Et toi?
Ça me fait super plaisir. Écoutez, je vais faire une petite entorse à la règle. Je vais le tutoyer parce que, en fait, c'est presque un moment d'émotion. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, Clément, tu nous as vu naître.
Ah, je ne savais pas que c'était ta naissance à l'époque.
Ouais. C'était, tu es venu dans les tout nouveaux studios que nous avions. On a commencé très petit avec un petit studio. C'était 72 rue du Faubourg Saint-Honoré. Je t'avais sollicité parce que tu étais le patron de BAP, Bureau à partager. Et tu étais en train de développer ton groupe de façon assez impressionnante. À l'époque, je crois que tu avais 37-38 ans à peine, hein, il me semble.
Mais écoute, je ne suis pas encore beaucoup
oui,
plus vieux.
T'as que 41 ans aujourd'hui. C'est
presque voilà. 40. C'est la quarantaine.
Tu te rends compte, c'est extraordinaire. Je suis ravi de t'avoir sur le plateau avec notre amie Johanna, notre complice du jour. Comment ça va, Johanna?
Eh bien, ça va toujours bien.
Voilà, c'est émouvant de voir un peu l'évolution. Je suis ravi de te voir. On s'était d'ailleurs parlé pendant cette période de confinement, hein, qui a été une période aussi inédite. On a parlé un petit peu métier. Alors, comment résumer, les amis, un profil, un personnage comme Clément Alteresco? Alors, moi, j'ai coutume de dire, quand je parle de toi, que tu as inventé un nouveau modèle.
Oh.
Oui. Mais ce n'est pas tant un nouveau modèle, on va dire, matériel, technique ou opérationnel. J'allais dire que c'est plutôt une dimension plutôt personnelle, humaine, une façon d'être. Toujours très... Voilà, je vois que jamais on n'arrivera à te faire mettre un costard, une cravate ou une
chemise. Si, il faut m'inviter à ton mariage.
Ah, quand même. Quand même, tu as toujours un style très souple, très carré, mais en même temps, mais voilà, très, très humain, très sociable. Je sais que j'avais vu des personnes qui avaient travaillé avec pour toi ou qui travaillent toujours pour toi. Et je pense que dans ta façon d'inventer ces modèles, c'est aussi une nouvelle façon de faire ton business, de développer ton activité. Moi, je me rappelle de cette interview qu'on avait faite à l'époque et je m'étais dit, mais ce mec-là, c'est un artiste, en fait. C'est pas un mec qui devrait faire du business. T'avais un côté artiste, un côté, j'allais pas dire bobo, hein, mais le côté bohème. Voilà. Je me trompe ou pas?
Non, t'as raison. En fait, j'ai envie de travailler comme je suis. J'ai pas envie de mettre un costume qui me déforme ma personnalité. Moi, je considère que le travail, c'est le prolongement de ma personnalité et je veux être qu'une seule personne. Je travaille comme je suis comme je travaille. Il n'y a pas de frontière pro-perso chez moi. Il n'y a pas de masque. Et c'est quelque chose qu'effectivement que je développe en termes de culture dans ma boîte. Et je trouve que c'est très important en fait d'être une seule personne. Je dis souvent à mes salariés, ici, c'est ta personnalité qui doit s'exprimer. T'es pas là pour mettre un masque quand tu viens au boulot. On veut que tu sois toi-même, on veut que tu développes ta personnalité parce que moi je considère que quand tu es toi-même, tu es meilleur. Tu as pas de faux semblants, tu te dis pas qu'est-ce que les gens vont penser. Si tout le monde doit savoir, si quelqu'un n'est pas drôle, qu'il est pas drôle. Voilà. Et on sera très content qu'il fasse des blagues pourries parce que tout le monde sait. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai parce que si dans un groupe en fait, dans une équipe. Tu sais que cette personne-là, elle est mauvaise en maths, tu ne vas pas lui confier les Excel à produire, etc., etc. Donc, il faut que dans une équipe, les gens connaissent leurs défauts, leurs qualités, et ça permet de mieux bosser, en fait. Donc, voilà,
Est-ce que ça exclut des personnes qui ne partagent pas forcément le même état d'esprit? Parce que dans ce que tu dis, tu es un adepte du décloisonnement, c'est-à-dire que tu estimes qu'on est dans la vie personnelle, qu'on est dans la vie professionnelle. Je trouve ça très bien. Mais ça peut créer des vrais désagréments dans un univers professionnel parfois un peu violent, il faut le dire, un peu rude, féroce en termes de concurrence, féroce en termes de rapports, parfois des rapports, comme tu disais, qui sont souvent des faux-semblants, hein, qui sont ce qu'on appelle des amitiés de circonstance ou des relations de circonstance. Est-ce que quand on est chef d'entreprise comme toi, moi j'ai suivi très longuement ton parcours, tu as commencé quand même super jeune, c'était pas du tout évident, tu t'exposes aussi à des grandes déceptions, avec parfois des... Comment tu arrives à le gérer? Comment tu agrèges finalement l'équipe qui est autour de toi, qui est quand même relativement stable aujourd'hui?
Ouais, j'ai une équipe super stable. Oui, je suis d'accord avec toi, ça va pas pour tout le monde, cette culture.
C'est arrivé, je veux dire que les personnes d'elles-mêmes s'excluent du cercle.
Bien sûr, en fait, c'est le propre d'une organisation, en fait. Quand tu crées une entreprise, tu crées une organisation, tu crées un village. Et au fur et à mesure du temps, tu crées des codes, tu crées une culture. Et les gens... Alors, on a une culture qui est très ouverte, donc on est quand même très accueillant. Mais effectivement, quelqu'un qui n'est pas aligné avec... quand même les grands principes de cette culture et la transparence, on va dire le côté véritable des gens et voilà, on veut des vraies personnalités. C'est vrai que si quelqu'un aime bien être dans le travail un petit peu faux semblant et politique, ça marche pas. Voilà, quelqu'un qui joue, qui est pas lui-même, sera très vite démasqué en fait. Moi, dans les interviews que je fais, par exemple avec des potentiels recrutements, je ne parle pas du tout de boulot, en fait. Je vais tout de suite sur le perso. Je demande tout de suite à la personne où est-ce que tu as grandi.
Ah oui,
qu'est-ce que font tes parents
ça déstabilise ou pas? Parce que c'est quand même, c'est pas courant quand même.
Et tout de suite, tu vois si la personne est déstabilisée ou pas. Tout de suite, tu vois si en fait elle est à l'aise de parler de sa vie personnelle. Et tout de suite, tu rentres dans une discussion qui est beaucoup plus profonde. Moi, ce que je veux autour de moi,
c'est... Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir quelqu'un qui te dit...
Bien sûr.
Vous me posez une question, attendez, là...
Mais bien sûr, mais c'est terminé, en fait, l'entretien s'arrête quasiment. Enfin, je rigole, je ne suis pas aussi violent. Je continue poliment.
Quand tu sens qu'il y a une... Non, parce que ça peut être de la pudeur.
Oui, mais en fait, la pudeur, par exemple, c'est pas une de nos... ça fait partie des... Alors, je suis pas non plus à... voilà. Si la personne s'ouvre progressivement et qu'elle comprend, en fait, que... Parce qu'après, je lui explique aussi la culture de la boîte et pourquoi je lui pose ces questions. Et donc, si elle s'ouvre progressivement et qu'elle comprend le principe et qu'en fait, ça lui correspond. Voilà. Mais après, en fait, c'est naturel. La personne se reconnaît ou pas. Et moi, les premières choses que je dis à quelqu'un qui vient chez nous, je dis, c'est toi qui dois nous choisir. Nous, on te choisit, mais c'est ta vie. Nous, on est une organisation, on t'accueille.
C'est réciproque, je veux dire. C'est un choix. C'est un choix. C'est comme dans un couple, je veux dire.
Mais c'est beaucoup plus important pour la personne.
C'est pas une fusion, c'est une addition.
Oui, mais quand tu te rends compte qu'en fait, la vie d'une personne, c'est plus important que, quelque part, que la vie de notre groupe. Enfin, j'exagère un petit peu, mais
il y a du vrai dans ce que tu dis, surtout à l'aune de ce qui s'est passé.
Il faut que les gens soient heureux au boulot. Enfin, il faut que les gens, en fait, nous choisissent parce qu'ils prennent du plaisir en se réveillant le matin. Si le matin, tu traînes les pieds et t'as pas envie de venir bosser chez nous, en fait, il faut mieux que tu fasses autre chose.
Ah oui.
Donc ça, c'est un principe de base. On veut que les gens prennent du plaisir, on veut que les gens s'amusent, on veut que les gens aient envie de venir bosser. Voilà, ça crée une implication, une adhésion. Ça change tout. Ça change vraiment tout au boulot. Il y a une ambiance chez nous, je pense, qui est géniale parce que, justement, on a créé cet environnement qui est propice au plaisir. Le travail sans plaisir, pour moi, c'est inconcevable.
Vous en pensez quoi, Joanna ?
J'en pense qu'on ne l'a pas précisé encore au bout de 10 minutes, mais le chez nous, c'est Morning Coworking, on ne l'a pas dit, dont vous êtes le
morning
dirigeant.
Morning tout court.
Qui est devenu Morning depuis mercredi,
deux c'est jours.
Officiel depuis mercredi.
C'est Morning maintenant la marque.
Voilà. Oui, alors je crois qu'il y a aussi une diversité dans les activités. Vous pouvez nous détailler tout ça ?
Tout à fait. Alors on est connu évidemment pour le coworking, Morning Coworking. Du coup, comme on fait d'autres activités, on a réduit à Morning. On a trois piliers aujourd'hui, donc le coworking, on va le garder quand même parce que c'est important. Ça fait à peu près 80% de notre
activité.
C'est
la genèse aussi.
C'est la genèse, c'est le pilier. Donc on gère des espaces. Donc ça, c'est le coworking. Et on a développé deux autres activités récemment, ces trois dernières années, qui sont l'aménagement et l'événementiel. Donc l'aménagement, c'est on est capable aujourd'hui d'aménager des espaces de travail, des bureaux. On a une équipe de 20 personnes en interne qui font tous les métiers.
Avec architectes.
Avec architectes, on a même des électriciens. On a vraiment de tout chez nous, des chefs projets, etc. Ça, c'est devenu très important chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on fait nos propres travaux. On a même un atelier d'ébénisterie à Bagnolet, dans un de nos espaces. On fabrique nos propres meubles, on les design, on les fait fabriquer. Voilà, on a une vraie grosse activité de production aussi de mobilier. On est même en train de réfléchir à sortir notre propre ligne de mobilier. Et donc, en fait, ce que j'aime, moi, c'est créer des muscles dans mon entreprise et puis derrière les mettre à disposition. Donc voilà, on a créé cette activité en interne, on l'a développée, on est devenus des experts doucement, mais sûrement pour nous-mêmes. On s'applique à nous-mêmes d'abord et puis maintenant on le propose à d'autres. Et donc on a maintenant pas mal de clients qui nous appellent pour qu'on rénove, refasse leur bureau. Voilà. Et ça c'est une grosse activité qu'on développe. Et enfin l'événementiel, c'est aussi une évidence. On a plein d'espaces avec des super spots, notamment à Paris, avec des terrasses, avec des endroits qui sont super bien designés. C'est quand même dommage de ne pas accueillir des boîtes et leur faire passer une journée chez nous pour les inspirer, pour qui bossent, etc., etc. Donc on a développé une activité événementielle aussi. On a 5 personnes qui gèrent cette activité. Donc coworking, aménagement événementiel. Mais en fait, on fait plein d'autres trucs et on va développer des nouvelles activités. Voilà. Le mojo chez nous, c'est que les gens passent une bonne journée de travail. Voilà.
Sur ces 3 activités, ça fait combien de locaux, combien d'espaces ?
Alors sur Morning Coworking, on a une grosse vingtaine d'espaces, Paris Première Couronne. On a à peu près 7000 personnes qui viennent bosser chez nous. Alors en ce moment, il y en a un petit peu moins, je ne vous le cache pas. mais c'est normal, mais ça va revenir. Hein. Les gens ont envie de revenir au boulot. Voilà, 7000 postes, on a une vingtaine d'espaces, à peu près 60 000 mètres carrés.
Combien de collaborateurs aujourd'hui ?
On est 130.
130,
ouais.
Grosse évolution. Si on fait la genèse du parcours, tu as commencé avec Bureau à partager ?
Oui, alors le principe du départ, c'était...
BAP, c'est un moteur de recherche.
Bureaupartagé.com, effectivement, qui continue à exister, qui marche très fort, qui est une plateforme, place de marché, comme on dit, une sorte de Airbnb, mais pour le bureau partagé, le coworking. Donc ça, c'est le début. Ça a été créé en 2007. Il faut quand même se dire que ça a 13 ans.
Tu n'étais pas le premier à faire ça, il me semble.
Bureaupartagé.com, c'était un premier de son genre.
Sur un projet, un concept comme celui-là, c'était ouais. il y avait pas de précédent.
Non, il y avait des petits sites qui existaient, enfin qui marchaient, qui marchouillaient, mais qui n'existaient pas. Non, on était vraiment des pionniers sur le coworking. Enfin, pour rappel,
ça a formidablement marché, hein. C'est extraordinaire.
Pour rappel, moi j'étais chez Faber Novel à l'époque, qui est une boîte de conseil qui fait 400 personnes aujourd'hui, qui marche très bien, dont je suis toujours très proche. J'ai aussi mes associés sur Morning. Stéphane, qui est toujours le patron de Faber Novel, c'est lui qui a développé et créé le premier coworking à Paris et en Europe, qui s'appelait à l'époque La Cantine, qui est devenu le Numa. Et moi, je suis parti à San Francisco en 2008 pour créer Paris Soma, qui était, parce qu'il vient de fermer, un espace de coworking à San Francisco. Et là, on est en 2008. Donc, on était vraiment assez pionniers dans ce secteur. Donc, ça fait quand même 12-13 ans que je connais ce sujet. Et bureaupartagé.com, effectivement, c'était les débuts. On a développé une plateforme qui permettait à des gens de trouver des bureaux partagés.
Parce que ça a commencé par BAP.
Oui, tout à fait.
Hein ? Et ensuite,
Morning,
absolument.
Morning est arrivé. En fait, d'accord. On s'est rendu compte qu'il
y avait une marque à l'époque, avant Morning.
Ça s'appelait L'Espace.
Oui, d'accord. Voilà.
C'était pas vraiment une marque, en fait. On avait mis un mot pour créer cette activité, mais on n'avait pas vraiment créé de marque.
Vous étiez combien au départ ? Deux, trois.
Ouais, on a commencé fin 2012. J'avais embauché ma meilleure copine, Marie. On était sur une petite table chez Faber Novel. On était deux, et puis après on était trois avec une stagiaire. Enfin voilà, ça a démarré très progressivement. Hein. On a fait grandir la maison tout doucement, sûrement, mais tout doucement.
Il me semble qu'on a des témoignages d'ailleurs qui illustrent en fait ces propos, n'est-ce pas, Johanna ?
Oui, puisque vous aimez poser des questions personnelles en entretien. Et ben nous, on les a posées à des gens qui vous connaissent bien. On va commencer par un premier témoignage qui est celui de quelqu'un qui vous a connu professionnellement. C'est Anne Koch, qui travaille, je crois, aujourd'hui chez Groupama Immobilier, qui nous a parlé de vous. Je l'ai appelée, c'était hier matin, et elle nous a dit de très jolies choses sur vous.
C'est pas mal, ouais.
On l'écoute. Nous sommes maintenant avec Anne Koch qui a connu Clément Alteresco dans un environnement professionnel. Bonjour Anne.
Bonjour.
Comment s'est fait cette rencontre avec Clément ?
Eh bien très exactement le 8 septembre 2015 à 14h30 sur les grands boulevards dans un immeuble que BAP, Bureau à partager à l'époque, occupait pour lancer son activité de plateforme de bureau à partager. Et après un contact rapide sur LinkedIn, Clément m'avait accepté très très vite comme relation sur LinkedIn et nous avions convenu d'une rencontre physique le 8 septembre 2015. Donc ça va nous annoncer nos 5 ans dans pas longtemps.
Au bout de 5 ans, vous avez, je suppose, relevé ses qualités et ses défauts au niveau professionnel ?
Oui, surtout au niveau humain aussi. Pour moi, c'est d'abord une relation humaine avec Clément. On a plutôt des relations de confiance et très humaines plutôt que professionnelles. Je ne dirais pas que nous avons des relations professionnelles. Je dirais que nous avons surtout une très belle relation humaine.
Alors Anne, si vous voulez bien, on va changer un peu d'exercice. Vous le savez, Clément vous écoute en ce moment, hein, puisqu'il est avec nous en plateau. Je vais vous laisser l'antenne quelques instants et puis vous allez pouvoir lui passer un message, il vous écoute.
Alors Clément, je sais que tu ne portes toujours pas la cravate que je t'avais offerte, alors que je pensais que ça allait te donner un peu de maturité, un statut fantastique et que tu allais pouvoir aller comme ça rencontrer tous les investisseurs de la planète grâce à une cravate. Et 5 ans plus tard, je me dis qu'effectivement, la cravate n'est pas nécessaire, ta personnalité est tellement attachante, motivante, que tu fais tout, à peu près tout dans la douceur, la transparence et la confiance. C'est une leçon pour moi, puisque le monde de l'immobilier n'était pas exactement dans ce fonctionnement-là depuis des années, et que tu as, grâce à ton comportement différent, à ta façon de fonctionner, aux apports que tu as donnés à notre secteur, notamment digitaux, tu as transformé effectivement une partie de nos métiers et de notre écosystème. Et ça, je suis absolument, mais vraiment très fière de toi pour ça.
On aimerait tous avoir des commentaires comme ça. Professionnel d'une grande beaucoup de sobriété dans le discours et en même temps
Mais Anne, c'est ma marraine, quoi. C'est quelqu'un de formidable. Effectivement, on a une relation de confiance. On s'est trouvé à peu près en une minute, on s'est reconnu et puis il y a un coup de foudre. Donc c'est quelqu'un avec qui que j'appelle régulièrement dès qu'on a une idée, dès qu'on a c'est quelqu'un de très spécial que j'aime beaucoup et qui me suit, qui m'a un peu introduit en fait, parce qu'effectivement il y a des codes dans l'immobilier. Moi j'y connaissais rien, il y a 5 ans j'y connaissais vraiment rien.
Tu connaissais rien du tout dans l'immobilier?
Vraiment rien, moi je viens du digital, j'avais signé un bail dans ma vie, vraiment j'y connaissais vraiment
rien.
Donc l'immobilier je l'ai appris entre 2014 et aujourd'hui. Donc c'est un secteur, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Anne, elle m'a expliqué ce que c'était que l'immobilier, elle m'expliquait les codes, et à chaque fois que j'avais un sujet ou une réflexion, elle est venue faire des cours dans ma boîte, elle nous a fait des cours sur l'immobilier. Donc c'est un peu notre marraine,
C'est exactement le mot qu'elle a employé quand on s'est parlé. Je lui ai dit, mais finalement, vous êtes un peu son mentor. Elle me dit, non, je suis plutôt sa marraine. Ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je sais qu'elle nous écoute ce matin. On peut lui dire, Anne, il ne porte toujours pas de cravate.
Non, je suis désolé, Anne.
D'ailleurs, non seulement ma chère Anne, ne vois-tu rien venir? Enfin bon, c'était une... si on regarde effectivement Clément, il n'a toujours pas de cravate. Mais encore une fois, moi, je l'ai connu finalement la même période. On s'est connus la même période.
À peu près,
ça va faire 5 ans, parce que ça fait 5 ans en novembre que le groupe existe, hein, Web Radio Audition. Et effectivement, je trouve qu'il y a un peu moins de cheveux,
si je peux
me permettre. Ouais. Voilà, il y a un peu moins de cheveux. Mais franchement, t'as pas changé.
T'es dur avec moi, hein, parce que
t'as vraiment, vraiment pas changé. C'est un style que je comprends quand elle parle d'une personnalité attachante. Je le comprends. Mais... avec quand même une intelligence acerbe, parce que quand franchement tu connais rien à l'immobilier, comment t'as fait pour imaginer le succès que ça allait... Est-ce que tu savais que ça allait marcher?
Non.
Quand t'as pensé BAP et que tu t'es lancé dans un marché que tu connaissais pas vraiment au départ, mais t'avais quand même benchmarké, mais quand même.
Alors honnêtement, bureaupartagé.com, c'est un site qu'on lance à l'époque chez Fabien Navel en 2007 parce qu'on cherche des bureaux. On cherche des colocs de bureaux parce qu'on a des bureaux trop grands. Et donc, on est des innovateurs, on est des entrepreneurs. On fait ce site en se disant, on verra bien si ça marche. Et pendant 5 ans, je m'en occupe une heure par semaine. C'était vraiment un petit site.
Parce qu'au départ, il est Faber Novel.
Voilà, exactement. Donc, je le crée chez Faber Novel, je m'en occupe chez Faber Novel. Et c'est un petit site, voilà, on crée souvent des sites, on crée des concepts chez Faber Novel, ça faisait partie
de notre... c'est ton métier de faire ça, hein, d'avoir l'expertise digitale. Enfin,
exactement,
très affûté,
c'était digital, c'était mon expertise, ça allait toujours un petit peu,
C'est ce qui a fait ton succès au départ, c'est ta capacité-là.
Tout à fait.
C'est ce qui a aussi lancé le projet, quand même.
Tout à fait, c'était une plateforme web. Mais en 2012, après avoir passé 3 ans aux États-Unis, en revenant, je me dis, y a quand même un concept intéressant. Je regardais Airbnb qui cartonnait et je me suis dit quand même, le coworking commence à fonctionner, c'est un usage qui est intéressant, le partage de bureau est une évidence. Et donc je me suis dit, je vais me lancer, on verra bien. Le site faisait zéro chiffre d'affaires, il y avait une petite communauté de 5000 personnes qui étaient inscrites. Et du coup, j'ai commencé à le monétiser. Effectivement, un an plus tard, je me suis dit, en fait, ce qui fonctionnerait vraiment, c'est qu'on crée plus d'espace parce qu'il y a une demande pour des petits bureaux à Paris. Avant, à l'époque, il n'y avait pas encore les grands groupes qui s'y intéressaient.
Bien sûr. Il y avait des centres d'affaires historiquement, comme Régus.
Voilà.
Mais il y avait des espaces qui étaient
très différents.
Mais là, dans l'usage, c'était complètement révolutionnaire.
Voilà, à l'époque, vraiment, on était sur un autre usage et une autre cible, parce que Régus, ça s'adressait quand même à des gens qui avaient des entreprises qui avaient des moyens.
Bien sûr.
Là, on est plutôt parti sur des entreprises qui étaient plutôt en démarrage, qui n'avaient pas des moyens. Bureau à partager, puis on crée l'espace qui en fait était déjà morning en termes de concept, qui sont des espaces de coworking, et ça se fait progressivement, on prend des espaces. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais pas levé de fonds, j'avais pas d'argent, on est parti sur un concept de bureau éphémère, d'espace éphémère. Donc, moi je me suis rendu compte en fait que quelques foncières, et souvent les foncières, laissaient des bureaux vides pendant des lustres, pendant des années, parce qu'elles attendent un permis de construire ou autre. Et donc, on a commencé à aller voir ces foncières en leur disant, confiez-nous vos bureaux, on fait 50-50 sur le chiffre d'affaires. Voilà. Pendant la période... Donc, c'était
génial.
On bouchait les trous, finalement. Et puis, on permettait à plein de petites boîtes de venir s'installer à bas coût.
Oui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans.
Exactement, le temps que... et du coup, ça, c'est devenu notre spécialité pendant... tous les débuts, et ça nous permettait surtout d'avoir un BFR positif, négatif, je ne sais plus dans quel sens ça, en tout cas d'être payé par nos clients avant de payer notre loyer, ce qui nous a permis de croître beaucoup plus vite que si on avait attendu de faire une levée de fonds, si on avait pris des baux classiques avec des pots de garantie, loyer, etc., CAPEX au départ qui demande soit un gros prêt, soit des fonds. Donc ça a été un modèle qu'on a inversé et qui nous a permis...
Un peu d'urbanisme temporaire ou d'immobilier de transition.
Qu'on fait encore beaucoup. On a vraiment deux jambes aujourd'hui, la jambe, ce que j'appelle éphémère, donc celle-ci, et la jambe plus durable. Aujourd'hui, on prend des baux sur 12 ans. On vient de signer l'hôtel de la Marine sur la place de la Concorde pour 12 ans. Voilà, donc on s'installe sur le paysage.
T'as eu l'hôtel de la Marine vous le situez, Johanna?
Sur la Concorde?
Voilà, quand vous êtes place de la Concorde, vous avez l'hôtel Crillon qui est sur votre gauche, à côté de l'ambassade de France, et vous avez l'hôtel de la Marine, qui est le même immeuble, une réplique, sur le côté droit, côté Rivoli.
Voilà. Ouais, c'est un aboutissement.
J'y suis allé, j'ai fait plusieurs cocktails à l'hôtel de la Marine.
Tu reviendras.
Avec l'IHEDN à l'époque, qui faisait ses cocktails là-bas.
On a prévu de faire des événements.
Magnifique.
On fera
des plateaux de radio, si tu veux.
Avec plaisir. On est vraiment très fiers parce que se voir confier. Quand tu vois d'où vient le coworking, se voir confier l'hôtel de la Marine sur la place de la Concorde, qui est un joyau de l'architecture française parisienne, c'est pour nous un aboutissement.
C'est un succès remarquable.
Formidable, voilà.
Remarquable. On va parler un peu plus de notre ami Clément avec sa playlist musicale, mais aussi ses amis, son parcours.
Exactement, et on va écouter un peu de musique pour l'heure. Votre deuxième choix musical, c'est Christine and the Queens avec la chanson Christine. On l'écoute, on revient juste après.
Je commence le livre par la voix.
Christine and the Queens, voilà, il faut aimer, voilà, il faut aimer. Mais bon, je suis un peu décalé, moi, à l'âge que j'ai, à grand âge que j'ai. Il est 8h30, Johanna. Alors, le principe de notre émission, Clément, effectivement, puisque comme tu nous as vu net, nous n'avions pas la grille de programme que nous avions aujourd'hui, c'est de parler de toi à titre professionnel, ce que nous avons fait aussi beaucoup, mais aussi de parler de toi à titre personnel, et comme tu es un adepte du décloisonnement, tu ne verras qu'un inconvénient, ce qu'on parle un peu plus personnellement, de Clément, n'est-ce pas, Johanna ?
Tout à fait. Et je comprends mieux pourquoi vous avez dit oui tout de suite au Mac de Limo. Certains hésitent, surtout quand ils voient liste des éléments nécessaires. Et avec vous, ça a été tout de suite oui, et on a tout reçu tout de suite. Mais du coup, ceci explique cela.
Ça, c'est génial, par contre. Effectivement. Et je dis d'ailleurs à nos futurs invités prime du Mac de Limo...
ne soyez pas frileux,
voilà, ne soyez pas frileux. Faites comme Clément. On l'a appelé, il a dit génial, je viens. Puis en plus, j'adore Radio Imo, hein, n'est-ce pas ? Et il a donné... Enfin, c'est confort, hein, confort.
Tout à fait. On va parler un petit peu de votre parcours, si vous le voulez bien, puisqu'on a parlé de morning. Mais avant, il y a eu quelque chose. Comment tout ça a démarré ? Donc l'immobilier, c'était visiblement pas une vocation. Vous avez plutôt commencé dans le digital. Parce qu'il y avait une mode, parce que ça vous appelait. Comment ça s'est fait ?
Alors moi, j'ai toujours été un petit peu geek. J'étais vidéo, j'avais les premiers ordinateurs, les Amstrad, les Atari à l'époque.
T'as connu les
vidéo.
Amstrad ?
Ouais.
T'as que 40 ans ?
Bah, mais je voulais avoir les derniers trucs qui sortaient. Donc, voilà. Donc j'ai toujours été un peu là-dedans. Donc j'ai fait Dauphine et puis j'ai fait un master entrepreneuriat et puis technologie. Même si on n'était pas ingénieur, voilà, on touchait à tout ce qui était, on va dire, un peu technique. Et le digital, j'ai baigné dedans. Dès mon adolescence, donc ça a été quelque chose de naturel. Maintenant, je voulais surtout faire de l'investissement au départ, l'investissement dans les startups quand je suis sorti de de fac. Et finalement, je me suis retrouvé un peu par hasard au tout début de Faber-Novel, qui est en stage. Voilà, donc j'ai démarré en stage chez Faber-Novel. Le premier jour, j'ai monté le bureau. Je suis vraiment arrivé au premier jour. Et puis j'ai grandi pendant 9 ans professionnellement dans cette boîte, dans laquelle j'ai fait plein de choses. J'avais mon costard cravate pour aller faire du consulting à la Défense.
L'as quand même mis.
Ouais, je l'ai mis, ouais. Alors, la cravate, elle est vite tombée, on va pas se mentir. Donc, j'étais plutôt en costume chemise, comme toi, voilà, élégant. Mais la cravate, j'avais du mal. Et donc, je faisais du consulting pour des boîtes qui cherchaient à réfléchir à leur stratégie, notamment digitale. Faut se rappeler que début des années 2000, il n'y avait pas encore l'iPhone. Les boîtes se demandaient un petit peu comment elles allaient être impactées par cette vague Internet. Et donc, nous, on arrivait avec nos petits cerveaux et puis on essayait de les rassurer et puis de les aider à faire. Parce qu'en fait, le problème de ce marché digital, c'est que les gens ne savaient pas faire. Ils avaient du mal à comprendre comment mettre les mains dedans. Donc, Faber-Novel, on prenait toutes les bonnes idées et puis on les mettait en application. Donc ça m'a amené à faire plein de trucs très chouettes. Et puis de l'autre côté, à côté de mon costard, on créait des boîtes. Donc on entreprenait, on investissait aussi. Et j'ai imaginé un produit qui s'appelle Digitik à l'époque, en 2003, qui fonctionne toujours aujourd'hui, qui a été racheté par SFR qui est un concurrent de la Fnac Ticket. Et donc c'était un système de ticketing sur mobile à l'époque, puis imprimé à la maison. Voilà. Donc on a développé des boîtes chez Faber-Novel, on a travaillé pour des grands groupes. J'ai fait plein de choses hyper intéressantes. Je suis parti aux États-Unis, j'ai développé un espace de coworking à San Francisco
pour Faber-Novel,
qui s'appelait Paris Soma, Feu Paris Soma. C'est un petit peu c'est un petit peu dur de dire ça, mais ça a fermé il y a quelques semaines.
Quel confinement?
Non, non, ça faisait un moment que le modèle qu'on avait était plus adapté. Ouais. Dans une ville où le coworking a explosé littéralement. On l'avait démarré il y a 13 ans. Donc on n'était plus à la page. Et puis la taille n'était pas bonne, la configuration n'était pas bonne. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui faisaient qu'on n'était plus au niveau. Donc c'était plus assez
rentable. Finalement, Faber-Novel, c'est ta rampe de lancement. Quoi.
Ouais, et je suis encore associé de Faber-Novel.
Oui, c'est les 10 premières années.
C'est les 10 premières années.
Mais l'intelligence quand même du patron, c'est de t'avoir intégré dans le capital très rapidement, t'avoir fait évoluer. Il a été plutôt, plutôt malin là-dessus. Hein. Parce qu'il est aussi dans le capital de Morning.
Tout à fait. On est liés, on est amis aussi, hein, donc c'est une relation quand même très longue.
C'est lui qui t'avait pris en stage quand même.
Exactement. Il m'a pris en stage pour faire un stage dans son ancienne boîte qui faisait de l'investissement dans les startups. Et puis l'été, il a dit bah, finalement, je vais faire autre chose.
Vous avez combien d'écart d'âge tous les deux?
On a 7 ans, 6-7 ans.
Donc c'est un peu quelque part le grand frère, quoi.
Bah oui, c'est lui.
Aujourd'hui, c'est un ami.
On peut parler de mentor.
Voilà, c'est un ami.
Stéphane. C'est mon ami, c'est mon mentor, mon associé. Ouais, c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie, bien sûr.
Johanna.
Est-ce que vous aimez l'astrologie, Clément ?
Alors, figure-toi que ma mère est un peu astrologue.
Ah !
J'ai une relation un peu spéciale avec l'astrologie.
Ça va lui plaire.
Mais du coup, qui est bonne ou pas ?
Ouais, qui est très bonne. Ouais.
Et l'astrologie,
ça peut être tout ou rien. Ouais.
Non, non, mais je regarde pas les astres pour me guider, je te rassure. Mais j'aime bien le principe. J'aime bien ce qui sous-tend l'astrologie.
D'accord.
On pourra en reparler après, si tu veux.
Et l'astrologie chinoise, par exemple ?
Alors là, j'y connais rien, pour le coup.
D'accord.
Voilà.
Ok. On t'a préparé quelque chose, normalement ?
D'accord, alors non, là je suis curieux.
C'est le petit cadeau que l'on fait à tous nos grands témoins du Mac de Limo, c'est un horoscope chinois.
Ah.
On le disait Clément, vous avez 40 ans, presque 41 ans, ce sera le 12 décembre, puisque vous êtes né le 12 décembre 1979, ce qui fait de vous une chèvre de terre.
Waouh.
Chèvre de terre, oui. Chèvre de terre. Il y a la chèvre de métal, la chèvre de feu, je crois, hein, c'est ça ?
Oui, il y a plusieurs éléments associés.
On a eu des chèvres ici, hein, Johanna, tu te rappelles ?
Je ne suis pas sûr d'être très flatté par ce signe chinois.
Si, on a eu des chèvres, on a eu des serpents.
Non, mais c'est plutôt bien, je ne veux pas, je veux pas tout spoiler, mais Bill Gates, c'est chèvre, hein, et vous voyez.
Ah, je suis rassuré.
Mais justement, on va en parler. Je vais vous citer des traits de personnalité qui sont caractéristiques de la chèvre de terre. Et vous allez nous dire si ça vous correspond ou pas. Le premier, c'est créatif.
Ouais, je suis assez créatif. Ouais. Ça me correspond bien. Mais une chèvre est créative, ça, je...
La chèvre de terre.
Chèvre de terre, chinoise. Hein. Oui,
c'est pas pareil.
Oui, peut-être que les chèvres chinoises sont créatives.
Et visiblement, elles sont aussi prévenantes.
Moins. Je suis plus créatif que prévenant.
Et généreux?
Ouais, je suis assez généreux. Ouais, je pense que je suis généreux.
J'ai sensible.
Je suis pas sûr d'être très sensible. Je suis assez timide dans ma sensibilité, je pense.
Alors là, ça m'étonne.
Alors, il y a plein de types de sensibilité, mais je suis pas. Je suis quelqu'un qui arrive à garder pas mal son sang-froid.
Mais
on en reparle à la fin de l'émission après les témoignages.
Avoir un côté comme ça, poker face, non?
Ouais, j'aime bien le poker, par exemple.
Ah, très bien. Ouais, ça m'étonne pas du tout. T'es matheux, toi, hein? C'est pas possible.
Je suis un peu plus matheux que littéraire, on va pas dire.
Ouais.
Et le dernier trait de caractère, c'est anxieux?
Pas du tout.
Jamais?
Ah bon?
Ouais, pas du tout. Alors ça pour le coup...
Pour le business, quand tu vois que c'est difficile, des fois on rame, les contrats qui n'en finissent pas, les négociations...
Non,
les...
Le stress coule sur moi, d'ailleurs ça fait partie de mes qualités professionnelles. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs amis qui m'envient cette qualité, c'est que... Effectivement, je suis assez détendu sur ce qui va se passer. J'ai un optimisme assez puissant. Et du coup, si ça se passe mal, ça veut dire que ça se passera mieux. Et puis, si ça se passe mal, on apprend. Et puis, voilà.
Donc, c'est une attitude vachement spirituelle. Là.
Ouais, je suis assez détendu là-dessus. Et puis, en fait, je trouve que sinon c'est l'enfer, en fait.
Je vais faire un stage chez toi.
Hein. Écoute, viens, avec
parce que plus anxieux que moi, tu meurs.
Non, c'est vraiment... Non, pas anxieux.
On va faire la même chose avec des emplois, qui sont des emplois un peu idéaux pour les chèvres de terre. Le premier, c'est comédien.
Ouais, moi, j'aurais bien aimé être comédien.
Ouais.
Ouais, ça, c'est sympa.
Ouais, t'aurais pu...
Je sais pas si j'ai les qualités requises, mais ouais, c'est...
Ça, c'est ton côté créatif et artiste.
Ouais, voilà, ouais. Ça m'aurait plu.
Et j'ai paysagiste aussi.
Ah ouais.
Alors, je suis pas très fort en archi. Heureusement, il y a des gens très bien qui m'entourent.
Est-ce que t'as du goût pour la déco, la...
Pas trop. Pas trop vraiment, je délègue complètement cette partie-là. Tu sais, c'est ce qu'il faut savoir, c'est quand t'es nul, il faut savoir déléguer, il faut savoir prendre des gens qui sont meilleurs que toi pour faire les choses. Et cette partie-là, pour le coup, je suis pas du tout... En fait, je suis pas trop mauvais pour voir quelque chose qui me plaît, et ça va. En revanche, je suis très mauvais pour assembler des choses. C'est-à-dire que l'assemblage des couleurs, tout ça, c'est un métier. Arriver à créer une ambiance... mettre une chaise avec une table avec une couleur de plafond.
C'est juste.
C'est vraiment quelque chose. Je sais pas bien voir l'ensemble beau. Je peux te dire, cette chaise, je l'aime bien, elle est belle. Mais après, je saurais pas où te la mettre, tu vois.
Voilà. Et déjà, c'est bien, vous le reconnaissez.
Bah oui, non, mais alors, ça, tu l'apprends très vite. Si tu sais pas là où t'es nul, ça va vite aller mal pour toi si tu veux monter une boîte. Il faut vite pouvoir déléguer les choses... prendre les bonnes personnes au bon endroit, sinon ça ne marche pas.
D'où l'importance, effectivement, de bien s'entourer. Mmh. Et c'est un peu une qualité qui revient dans tous les dirigeants qu'on a reçus dans ce Mac de Limo. J'ai un autre métier, c'est animateur télé.
Bah, c'est un comédien, c'est pareil, non? Animateur radio.
C'est vrai.
Comment ça se passe?
Ça aurait très bien.
Non, pas trop. Je préfère comédien qu'animateur télé.
Et le dernier rigolo, c'est garde du corps.
Je suis pas sûr là. Non. Regardez comédien. On va rester dans le... Voilà.
Allez, on termine sur une petite liste de 5 célébrités qui sont comme vous, chèvres de terre. Je vous les cite et puis vous me dites instinctivement celui qui vous plaît le plus. J'ai Bill Gates, Bruce Willis, Denis Brognard, Jean-Louis Aubert et Robert De Niro.
Ah, moi j'ai une préférence déjà.
Ah bah, le premier ou le dernier l'acteur ou l'entrepreneur, Robert ou Bill. Bill Gates, c'est j'ai vu son sur Netflix, il y avait un reportage sur lui. C'est quand même un monstre
dans la tête de Bill Gates.
Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Le mec s'enferme 3 jours avec ses bouquins pour réfléchir. il a, enfin voilà, il est au sommet du monde, il essaie de résoudre des problèmes qui sont vertigineux. Je vous conseille quand même ce reportage. Voilà, c'est un mec hyper intéressant et puis qui a tout monté lui-même. Voilà, la force. Donc ouais, c'est hyper inspirant de voir une personnalité comme ça. Donc de là à m'identifier, je sais pas, mais voilà, je trouve ça impressionnant. Et puis après, Robert De Niro,
c'est
une légende.
Ouais, c'est génial, quoi.
C'est juste la classe.
Juste sa présence, son visage.
Ouais.
On va enchaîner si vous le voulez bien, parce que le temps file et qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et beaucoup de choses à écouter. On va enchaîner avec un témoignage un peu plus proche. C'est celui de Gauthier Machelon, c'est un ami de Dauphine. Et pareil, qui nous a parlé de vous, qui nous a raconté d'ailleurs une anecdote assez sympathique. On écoute tout ça.
Nous sommes avec Gauthier Machelon, un ami de Clément Alteresco. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Alors comment avez-vous connu Clément ?
Clément s'est connu il y a déjà plus de 15 ans. On a fait nos études ensemble à Dauphine. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Clément.
C'était quel genre d'élève ? Plutôt travailleur ? Plutôt fêtard ?
Plutôt fond de la classe, mais pas parce qu'il avait des mauvais résultats, mais parce que je pense qu'il voulait déjà s'amuser en travaillant. Et il a gardé ça tout au long de sa vie professionnelle. Donc toujours un petit sourire en coin et toujours prêt à avoir des nouvelles idées, à rire, mais aussi à écouter avec l'autre oreille.
Je suis sûre que dans tout ça, vous avez une super anecdote à nous raconter.
Je vais en raconter une qui est peut-être un peu indiscrète, mais je vais quand même la raconter. Je ne sais pas si vous pourrez la diffuser. Mais Clément, en fait, a toujours été quelqu'un d'extrêmement créatif, qui aime toujours surprendre les gens. Il aime toujours qu'on lui fasse des surprises, mais il aime toujours en recevoir. Et donc, avec une de ses petites amies précédentes, il aimait beaucoup faire des surprises. Et un jour, cette petite amie adorait les chats. Et quand elle s'est couchée sur le mur d'en face, le mur était blanc et vierge. Et quand elle s'est réveillée, il y avait un gros chat qui était tagué sur le mur. Et pendant la nuit, Clément était descendu, avait réussi à se débrouiller pour avoir des codes, pour avoir accès à ce mur, et avait tagué un gros chat pendant la nuit. Et voilà, et cette anecdote, elle illustre bien le fait que Clément soit quelqu'un de très créatif, d'imprévisible, qui aime être surpris et qui aime surprendre.
Ça, c'est pour ses qualités. Il a un ou deux défauts quand même ?
Non, bien sûr, Clément est parfait. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, Clément ? En fait, Clément, il a une grande qualité qui peut parfois se retourner contre lui, c'est que Clément ne respecte pas les codes. Donc il n'a pas de code, il n'a pas d'idées pré-reçues. Et du coup, parfois, quand il se retrouve dans des environnements qui sont codés, comme il n'a pas forcément envie de respecter les codes, parfois ça peut surprendre. Donc je prends ça comme une qualité, j'essaie moi-même de m'en inspirer. Mais dans certains cas, probablement, ça peut lui jouer des tours parce qu'il n'aime pas respecter les codes.
On va faire une petite chose, Gauthier, si vous voulez bien. C'est que, vous le savez, Clément est avec nous en plateau ce matin. Il écoute avec attention votre témoignage. Je vais vous laisser l'antenne et puis vous allez pouvoir lui passer un message, lui dire quelque chose. Allez-y.
Alors, Clément, ça me fait plaisir de pouvoir te parler, je ne te vois pas. Mais c'est l'occasion de te le dire. Il y a beaucoup de monde peut-être qui nous écoute. D'habitude, ce serait plus difficile de te le dire peut-être yeux dans les yeux. Mais tu es quelqu'un de vraiment exceptionnel, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui m'inspire régulièrement parce que tu es, par ta personnalité, un peu hors norme. Et donc ce matin, c'est l'occasion de te dire merci. Clément, et c'est une très belle amitié qu'on a commencée il y a 15 ans, et j'espère qu'elle va durer pour encore au moins 15 ans, et j'espère encore plus. Voilà, profite bien de cette émission, comme je sais que tu aimes les expériences, je suis sûr que tu t'amuses bien en ce moment.
C'est excellent, j'adore. Alors,
Gauthier, alors j'ai un peu triché parce que Gauthier, c'est aussi mon associé sur Morning. Et voilà, bon, c'est mon témoin de mariage. C'est partie des gens qui sont très très proches. Et ouais, effectivement, il a raison. J'aime bien les surprises. Je savais pas qu'il allait raconter cette anecdote sur le chat. C'est assez déstabilisant.
Alors, je voudrais juste comprendre. Tu as fait un tag de grandeur nature sur un mur.
Ouais, en fait, j'avais
sur un mur extérieur.
En fait, j'avais accès au toit. Je m'étais débrouillé pour accéder au toit de l'immeuble d'en face. Et pour l'anniversaire de ma petite amie à l'époque, j'avais, tu vois, les chats qui sont sur les murs parisiens.
Oui, je vois très bien.
T'as des chats, et donc j'avais fait un pochoir.
Oui, avec les pochoirs, c'est ça, on fait au pochoir. Avec le, ouais.
Voilà, et donc je m'étais levé à 4h du mat avec ma lampe torche. J'étais allé sur le toit de l'immeuble d'en face, j'avais fait mon pochoir. Je m'étais recouché, ça m'avait pris 2 heures.
Ouais. C'est sur le toit, sur le mur ?
C'était sur un toit. Je m'étais mis en une corde pour pas tomber parce que c'était la nuit. Donc je m'étais un peu là et puis j'avais tout préparé et j'avais fait mon pochoir quoi. Sur un mur blanc, sur le toit un peu incliné. Je m'étais pas mis en rappel complètement.
Ah ouais,
sur
le pied, enfin ouais.
Mais non, c'était pas dangereux. Moi, ça va. C'est pas dangereux. Je prends pas des risques inconsidérés.
Le tag, il faisait quelle taille ?
Il faisait 1 mètre sur 1 mètre, quand même. Ouais, non, c'était assez grand.
Ce qui fait que quand elle a ouvert la fenêtre, c'est ce qu'elle voyait ?
Ouais, elle le voyait. Alors, c'était pas non plus. Voilà, mais elle le voyait bien. Ouais. C'était en face de notre chambre.
Elle a halluciné. Elle a dit, c'est qui, c'est quoi ?
Ouais, c'était.
Comment elle a su que c'était toi ? Tu lui as dit, je l'ai fait ?
Bah oui, je lui ai dit bon anniversaire et je lui ai montré. Parce qu'en fait, c'était un délire entre nous, les chats dans Paris. À chaque fois qu'on en voyait, on essayait de les repérer. Et donc j'en ai fait un devant sa fenêtre quoi. Voilà.
Génial hein.
Ouais, j'étais amoureux.
Johanna, c'est les chevaux. Voilà. Johanna, c'est les chevaux. Notre championne.
Ah les
de,
chevaux. D'accord.
Ouais, championne de France de paradressage.
Waouh.
Quand même.
C'est beau.
Bravo. Au fait, vous y allez aux Jeux Olympiques ou pas ?
Bah attendez, faut refaire des championnats de France avant.
Ah oui. Ah oui, faut refaire encore les championnats de France. Mais vous êtes championne de France 2019 ou 2020 ?
2019.
Ah 2019. Mais vous serez championne de France 2020 aussi.
On verra.
Hein, je fais de la pub. Je fais de la pub pour. S'il y a des sponsors pour Johanna Gilberstein, hein ?
Oui, plaît, mais ce serait pas mal. Mais on va continuer à parler de Clément pour le peu de temps qui nous reste, puisqu'il est déjà 8h49. On va écouter très, très vite, hein, juste un petit extrême, mais parce que
juste
on
pour,
va le
voilà,
passer.
Juste pour le style.
Édouard
voilà.
Sharp and the Magnetic Zeros, ça s'appelle Home.
My eye, girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I dream of two, nothing there, ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Oh, let me go home.
Edouard Sharp de Magnetic Zero, c'était Home.
Le MAG de l'IMO, en partenariat avec Crédit Advisor, premier courtier en prêt immobilier 3.0 et Agence Réunie, le réseau d'indépendants au service de ses adhérents.
Il nous reste 7 petites minutes déjà avec notre grand témoin du jour, Clément Alteresco, le dirigeant de Morning. Maintenant, ça s'appelle Morning, anciennement Morning Coworking. Hein, pour ceux qui n'auraient pas encore pris le plus, hein, c'est tout récent, ça fait 2 jours seulement.
On n'a pas fait compliqué. Hein,
non, c'est pas compliqué du tout, hein, ça c'est sûr.
Il faut s'habituer, c'est tout.
C'est tout ouais.
On a un témoignage.
On a un témoignage. C'est celui de Franck, votre frère, qui va un peu dans le sens de tout le reste. Il paraît que vous étiez un enfant un peu casse-cou. On va écouter ça tout de suite.
Nous sommes maintenant avec Franck Stern, c'est le frère de Clément Alteresco. Bonjour à vous Franck. Clément était quel genre de petit frère ?
Il était très dynamique, très actif, tout le temps à droite, à gauche.
Il vous en a fait voir un peu de toutes les couleurs. Quand vous dites dynamique, c'est quoi ? Il était un peu turbulent ?
Non, non, pas turbulent. Bon, ça naillait de temps en temps, comme tous les frères. Mais non, dynamique, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de sport et un peu foufou. par exemple, je me souviens d'une fois où nous habitions dans le 15e, dans un ensemble d'immeubles avec un grand jardin à l'intérieur. Et un jour, il a dû faire du roller en bas. Et il a eu la bonne idée de faire du roller avec une bouteille en verre dans la main. Et forcément, il est tombé, la bouteille s'est cassée, il a fini aux urgences. Donc c'était un peu ça, mon frère.
Enfin. Un peu casse-cou, quoi, mais j'ai envie de dire comme les garçons le sont, finalement, quand ils sont jeunes.
Ouais, enfin, un peu plus que la moyenne, je pense.
Quel regard vous portez sur son parcours, sur ce qu'il a fait? Ça vous semble, j'ai envie de dire, évident? Vous le voyez arriver ici?
Évident, je pense pas. Non, moi je suis admiratif. Hein. Il s'est construit seul. Il a trouvé les bonnes personnes au bon moment. Pour atteindre ses objectifs qui étaient ambitieux, hein. Et là il continue, il persévère et le tout en s'amusant. Il s'amuse, enfin travailler l'amuse, quoi. Voilà, il s'est entraîné les gens autour de lui et progressé. Ouais.
On va faire un petit truc, Franck, si vous voulez bien. Vous le savez, donc Clément est avec nous sur le plateau. Il vous écoute en ce moment. Je vais vous laisser l'antenne et puis vous allez lui passer un petit message. Il vous écoute.
Bah écoute, Clément, je te l'ai jamais dit, mais ton grand frère est admiratif devant ce que tu construis, quoi, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je suis très admiratif de mon petit frère.
Waouh, ça veut dire je t'aime, ça. Hein.
Ouais, ça c'est beau parce que c'est mon frère, c'est quelqu'un de très timide et assez pudique, et c'est vrai que je pense que j'avais jamais entendu dire ça, donc c'est une belle expérience.
Vous avez combien d'écart d'âge?
6 ans.
6 ans.
Ouais.
6 ans. C'est très pudique, il y a des mots très, voilà, très, très gentils. Quoi. Alors, les amis, on l'a vu, hein, la marque du roller, là.
Ouais, ouais, hein? Il y a 2 artères dans le poignet, j'en ai plus qu'une, moi. Voilà.
Ah, okay.
Alors, j'ai failli perdre ma main. C'était quand même une belle opération.
C'était voilà, une bonne leçon aussi.
Ouais, ouais, quand je vois mes filles avec une bouteille en verre dans la main, je l'enlève
panique.
Très rapidement maintenant. Donc voilà, c'est... Ouais, j'y ai échappé belle.
Il nous reste un peu moins de 4 minutes, ça passe à une vitesse. On a passé pratiquement une heure ensemble, Clément.
C'est
et
rapide.
J'ai l'impression que, voilà, que c'était il y a 3 minutes. Mais ça me fait cet effet à chaque fois, je me dis, c'est fou.
Ouais.
Quand on tombe sur des gens... intéressant, brillant et attachant, ça c'est vrai.
Là, c'est gentil.
Là, je découvre une partie de que je connaissais moins bien. Je te connais surtout professionnellement, hein, puisque je t'ai eu une fois sur mon plateau, et après, je crois même t'avoir posé 1 ou 2 lapins où je devais venir une fois.
Ouais, on devait se voir.
Ouais, on devait se voir une fois, et on était en plein boom. J'ai eu, c'était compliqué, effectivement. Et puis,
je te pardonne.
Je regrette de ne pas venir le voir, mais je vais me rattraper. Mais j'étais très sensible à ça parce que il y a des choses que j'admire chez toi. J'aimerais prendre des cours de non-anxiété parce que ça, franchement, quand t'es anxieux, ça te pourrit la vie, mais t'as pas idée, quoi. N'est-ce pas, Johanna?
Ah, je ne sais pas.
Non, c'est pas. Je parle pas de vous. Hein. Je parle de moi, hein, tout à fait. On va arriver donc vers la fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse une petite conclusion comme ça, générale. On se dit 40 ans, marié, des enfants.
Deux filles, oui.
Deux filles. Une vie épanouie, une vie professionnelle remplie, sans jamais avoir finalement cédé. Céder à des codes, transiger. On a l'impression que tu n'as pas trop transigé. Voilà, moi j'aimerais que le mot de la fin, ce soit toi qui nous le dise. Justement, tu as 40 ans, tu as encore des choses extraordinaires à faire. Comment tu vois les choses, toi, dans les mois, les semaines qui viennent?
Écoute, la période qu'on vient de passer, justement, était assez propice à cette réflexion. Je pense qu'il y a beaucoup de Français. Comme moi, qui se sont retrouvés un petit peu coincés, qui ont eu l'occasion de réfléchir à leur vie, à ce qu'ils ont envie de faire, où ils ont envie de vivre, etc. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'à 40 ans, on te demande de faire quasiment. On te pousse à te dire, bon, bah, maintenant, tu as 40 ans, tu es au milieu de ta vie, quelque part. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et honnêtement, pour être très honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc,
en fait, tu sais une chose, c'est que tu ne sais pas.
Exactement. Et ça va peut-être avec cette non-anxiété, c'est que je ne me fixe pas trop d'objectifs. Contrairement à ce que disait mon frère, j'avance pas avec des objectifs clairs. J'avance en m'amusant, j'avance en essayant de faire des choses qui me plaisent. Donc, te dire où je serai dans 10 ans, vraiment zéro idée. J'ai monté une boîte dont je suis très fier. J'ai une nouvelle page qui s'est ouverte aussi professionnelle avec l'arrivée de Nexity.
Oui, bien sûr, comme actionnaire
majoritaire. C'est une expérience formidable, professionnelle, humaine. J'ai encore, je pense, avec Morning, au moins quelques bonnes années devant moi pour continuer à développer ce marché du coworking. Je pense qu'il y a un moment donné, je ferai autre chose parce que je suis entrepreneur et que j'aurais sûrement envie d'aller sur d'autres sujets. Mais j'ai découvert l'immobilier et on est aujourd'hui en Mac de l'Imo, un marché pour moi, un secteur que je ne connaissais pas et qui est formidable, vraiment. Alors qu'avant, j'avais plutôt une image un petit peu poussiéreuse de ce secteur et j'étais dans le digital. Pour moi, l'immobilier, c'était vraiment le truc dans lequel tu n'avais pas forcément envie d'aller.
C'est clair.
Et en fait, j'ai découvert une petite passion pour l'immobilier parce que il y a plein de métiers différents, il y a plein de trucs à faire. Ça mêle le pire et le meilleur, vraiment. Et donc, comme moi, j'aime bien qu'il y ait plein de choses qui se passent dans ma vie, là, j'ai trouvé un secteur dans lequel je m'éclate.
Eh bien, nous, on est très heureux de t'avoir reçu, vraiment. C'est un grand honneur pour nous, pour Johanna et moi, de t'avoir reçu. Il va falloir qu'on se revoie plus souvent. Ça, c'est une chose
quand
sûre.
Tu veux,
et je te propose qu'on se quitte sur un morceau de musique. Je pense à UB40, par exemple, UB40, avec un numéro qui s'appelle Red Wine. On va se quitter là-dessus.
C'est bien pour finir.
Pour une bonne pêche. Et puis, et se dire longue route à toi, Clément. Et surtout, une chose, s'il te plaît, ne change pas.
Merci.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Crédit Advisor, premier courtier en prêt immobilier 3.0 et Agence Réunie, le réseau d'indépendants au service de ses adhérents.